France Inter, il est 7h.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le mercredi 8 mai. Bonjour à tous et bienvenue sur Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, l'Arc de Triomphe qui a retrouvé toute sa splendeur pour les cérémonies du 8 mai. Plus aucune trace du saccage du 1er décembre en marge d'une manifestation des Gilets jaunes. On voit ça, Agnès, après les autres titres.
L'entrée en campagne d'Emmanuel Macron pour les européennes avec une visite surprise hier soir au dîner des candidats de la République en marche. La fin de la prise d'otage à Blagnac. Toutes les victimes sont saines et sauves. L'adolescent a été interpellé. Portrait du candidat aux élections en Afrique du Sud qui veut reprendre les terres aux fermiers blancs. Quand l'histoire du monde se lit dans un grain de blé, et puis appelez ça comme vous voulez, remontada, comeback, exploit, mais c'est Liverpool qui jouera la finale de la Ligue des Champions.
Les invités d'Inter ce matin, bonjour Alexandra Ben Saïd.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
7h50.
Alors les européennes, vues de Berlin, le vice-chancelier Olaf Scholz, le numéro 2 de l'exécutif, était de passage hier à Paris. Est-il inquiet pour l'Europe? L'Allemagne est-elle prête à dépenser plus pour relancer la croissance? Et puis le couple franco-allemand est-il en crise? On se retrouve à 7h50.
À tout à l'heure, 8h20, quand un spécialiste du cerveau se rend au théâtre pour voir une comédie de Molière, que se passe-t-il dans sa tête? Réponse tout à l'heure avec Lionel Nakache. Il publie un livre très étonnant intitulé « Nous sommes tous des femmes savantes ». C'est chez Odile Jacob. Vos questions dès maintenant au 01 45 20 24 7000, le standard est ouvert.
France Inter.
C'est le lieu symbolique des commémorations du 11 novembre 1918 et du 8 mai 45, l'Arc de Triomphe, place de l'Étoile à Paris, en haut des Champs-Élysées. Un symbole ciblé en marge de la manifestation des Gilets jaunes le 1er décembre dernier. Le monument avait pu rouvrir quelques jours plus tard, mais certaines œuvres les plus abîmées n'étaient toujours pas visibles. Tout est rentré dans l'ordre ce matin, Delphine Evenoux, pour la cérémonie présidée par le chef de l'État.
Regard intense dirigé vers le bas, bouche ouverte, le visage de la Marseillaise moulée en 1898 a retrouvé son ardeur.
C'est celui qui a été abîmé pendant les manifs de Gilets jaunes. Voilà.
Pendant 2 mois et demi, la sculpture n'était visible qu'à travers une petite fenêtre, pendant que les restauratrices étaient à l'œuvre, éclabouchée, fragments réassemblés. Depuis lundi, le visiteur peut à nouveau la contempler en entier.
Ça fait plaisir de voir qu'il est remis en état.
Moi, je me souviens du visage qui était justement tout endommagé. Là. Ça faisait, un trou dans justement dans cette statue de la liberté, quoi, qui représente la liberté française. Ça m'a beaucoup touché, en fait, tout ces dégradations de monuments.
Les touristes étrangers, 75% du 1 700 000 visiteurs annuels, sont aussi séduits.
Ça m'évoque la souffrance et la gloire.
Mais peu sont au fait des dégradations.
Au Brésil, je ne crois pas que les journaux aient montré les images, ça ne me dit rien.
Dans une autre salle, Jean-Marie photographie l'apothéose de Victor Hugo, tableau du 19e siècle de Guillaume Dubuff, abîmé en décembre et qui vient de retrouver ses quartiers.
Est-ce que vous arrivez à voir où il a été lacéré?
Non, ça se voit pas du tout. Non. Comme la statue, ça se voit pas non plus, donc c'est bien. Faut respecter l'histoire de la France.
Aujourd'hui, seul un petit buste de Napoléon est encore en cours de restauration. Les travaux ont coûté plus d'1 million d'euros.
Les cérémonies du 74e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale débutent tout à l'heure à 10h, avec une heure plus tard le dépôt de gerbes devant la tombe du soldat inconnu au pied de l'Arc de Triomphe.
Emmanuel Macron qui, hier soir, Agnès, est allé remonter le moral des troupes de la République en marche.
Nathalie Loiseau et Pascal Canfin avaient réuni leurs colistiers dans un restaurant parisien pour relancer la campagne des européennes. Entre la poire et le fromage, ils ont eu la surprise de voir arriver le chef de l'État qui a pris la parole durant un petit quart d'heure pour sonner la mobilisation générale à un peu plus de 15 jours du scrutin. Sébastien Sabiron.
Une rencontre préparée dans le plus grand secret, histoire de marquer les esprits. Emmanuel Macron est resté un peu plus d'une heure dans ce restaurant au pied du palais de Tokyo, face à la tour Eiffel. Le chef de l'État qui est apparu, confiant, déterminé, nous dit-on, pour motiver ses troupes à un moment décisif. Nathalie Loiseau, tête de liste Renaissance aux européennes.
Emmanuel Macron, c'est le leader de l'Europe. Il nous a parlé des enjeux européens. C'était un moment de joie, de mobilisation bien sûr. Et je crois que ça a fait plaisir à l'ensemble des colistiers qui étaient là.
Motiver et soutenir, alors même que le Rassemblement National devance La République En Marche dans certaines enquêtes d'opinion. Peu importe les sondages, répond le leader du Modem, François Bayrou, devant ce restaurant où il avait fait alliance avec Emmanuel Macron il y a 2 ans.
Les sondages sont de peu d'importance. Il y a aujourd'hui une importance, c'est que dans l'ensemble des pays européens, le président de la République française est le seul à porter une vision vitale de l'existence de l'Europe et de sa force. Il est venu rappeler que Jamais on n'avait eu un combat aussi important à mener.
Un combat entre ceux qui veulent rebâtir l'Europe et ceux qui veulent la diviser, a expliqué le chef de l'État, exhortant ses troupes à valoriser les aspects positifs de l'Europe et à remettre de l'envie au cœur de cette campagne.
Emmanuel Macron, dont la photo figurera en bonne place sur la profession de foi qui va bientôt arriver dans les boîtes aux lettres avec le slogan « En marche pour les Européennes », quant au programme, il doit être dévoilé demain. En attendant, le gouvernement assure le service après-vente des mesures en faveur du pouvoir d'achat. 95% des contribuables paieront moins d'impôts, affirme ce matin Gérald Darmanin à la une du Parisien aujourd'hui en France. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics chiffre la baisse des impôts à 300 euros en moyenne par an et par foyer. Hier, Édouard Philippe estimait de son côté que le pouvoir d'achat moyen par ménage allait progresser de plus de 2% cette année, avec un gain moyen de 850 euros par ménage.
Il est 7h06, Agnès, soulagement à Blagnac, où les quatre femmes retenues en otage dans un bar tabac durant plusieurs heures ont été libérées.
La patronne et ses employés sont saines et saufs. Quant au preneur d'otage, un adolescent de 17 ans, il a fallu de longues heures de négociations aux hommes du raid pour le ramener à la raison. Récit signé Stéphane Iglesis.
La prise d'otage aura duré 5 heures et le forcené n'a été intercepté que vers minuit. Tout a commencé en milieu d'après-midi par l'irruption d'un jeune garçon de 17 ans, casqué et armé, dans un bar PMU de Blagnac. Patrick a été le dernier client que le jeune homme a fait sortir.
Il est rentré, je n'ai pas spécialement remarqué. C'est un endroit où ça rentre, ça sort, c'est un bureau de tabac. Il est rentré, puis il a commencé à faire sortir les gens, un à un. Puis après, il a fait baisser le rideau. Et il a été très gentil, mais c'est pas un casque intégral. Il avait juste un petit casque comme ça. On voyait très bien son visage. Il avait l'air très jeune, pas dérangé, bien sûr, propre sur lui et calme, très calme.
Le raid, après une heure de négociation à l'extérieur du bar PMU, l'a interpellé en douceur. Quant aux motivations du preneur d'otage, elles restent floues. Dans un texte, il fait référence aux gilets jaunes et selon le procureur de la République, il aurait dit vouloir uniquement faire quelque chose de spectaculaire. De ce point de vue-là, c'est réussi. Toulouse, Stéphanie Iglesis, France Inter.
C'est comme ça, je n'y peux rien. L'ex-PDG de France Télécom a rejeté toute responsabilité hier lors de son premier interrogatoire. Didier Lombard, poursuivi pour harcèlement moral, a qualifié de crise médiatique la vague de suicides qui a secoué l'entreprise à la fin des années 2000. Tout en exprimant sa sincère et profonde tristesse, il a maintenu que le changement était nécessaire pour sauver l'entreprise. Des propos qui ont choqué les familles de victimes, nous les entendrons dans le journal de 7h30. Direction à présent l'Afrique du Sud, où les bureaux de vote viennent d'ouvrir pour les élections législatives et régionales. Élections qui devraient permettre au président Cyril Ramaphosa de se maintenir au pouvoir. L'ANC, le parti historique de Nelson Mandela, est largement en tête avec plus de 50% des intentions de vote. Mais 25 ans après la fin de l'apartheid, c'est un jeune leader très charismatique qui a animé la campagne. Julius Malema, du parti des combattants pour la liberté économique, milite pour la reprise par la force des terres des fermiers blancs. Son portrait signé Noé Ochebaudin.
Julius Malema est avant tout un grand orateur, un leader qui s'identifie à Thomas Sankara. Lui aussi a le béret sur la tête, des idéaux panafricains et se fait appeler le commandant en chef par ses troupes. Il s'est fait connaître pour ses longues tirades contre les blancs sud-africains.
On se bat pour s'asseoir à la même table que les blancs. Vous, les blancs, vous n'allez plus manger tout seul. Et si vous nous refusez, nous détruirons la table et personne ne mangera.
Des propos qui lui valent d'être accusé de racisme. Lui veut exproprier les fermiers blancs qui détiennent 75% des terres. Volontiers provocateur, il chante pendant ses meetings la chanson « Tuer les fermiers blancs », toujours à la limite de l'incitation à la violence. Près de son township natal, dans la région du Limpopo, des terres reprises à un fermier ont même été baptisées Jujuville, en hommage au héros local. Pourtant, sa cousine Rosina est encore sceptique.
Malema est de l'ANC à la base. Il a quitté l'ANC car il était lui-même corrompu. Donc maintenant, il a créé son parti qui est aussi corrompu.
Le parti du charismatique Julius Malema est de loin le plus médiatisé en Afrique du Sud, mais ne rassemble que 13% des intentions de vote. Johannesburg, Noé Ochebaudin, France Inter.
L'Iran ne va pas se retirer de l'accord sur son programme nucléaire, mais pourrait minorer certains de ses engagements. C'est ce que déclare le ministre iranien des Affaires étrangères. Un an, jour pour jour, après la décision de Donald Trump de se retirer de l'accord signé à Vienne et le rétablissement des sanctions économiques contre Téhéran, signe de la tension grandissante, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a fait hier une visite surprise à Bagdad pour contrer ce qu'il appelle une escalade attribuée à l'Iran, soupçonné de préparer une attaque contre les forces américaines basées dans la région. Nous y reviendrons dans le journal de 8h. serviteur.
10 000 ans d'histoire, Agnès, 10 000 ans d'histoire du blé.
Le blé, aliment de base qui, avec le riz et le maïs, nourrit la planète depuis la nuit des temps. Et l'étude des 100 000 gènes de quelques 480 variétés de blé permet de retracer l'histoire des migrations et même, Sophie Becherel, les évolutions géopolitiques du monde.
Le blé d'aujourd'hui, c'est 10 000 ans d'histoire. Quand les hommes du néolithique domestiquent la plante sauvage, elle se trouve dans le croissant fertile entre Israël et l'Irak. Une première migration a lieu, un groupe part vers l'Europe, l'autre vers l'Asie. Gilles Charmet est chercheur à l'INRA, il a coordonné ce projet européen sur 480 variétés de blé.
À l'époque, les fermiers néolithiques, ils ont apporté leur blé avec eux, et puis ce blé, il s'est différencié au fur et à mesure que les fermiers s'établissaient dans de nouveaux territoires. Et ensuite, il y avait relativement peu d'échanges.
C'est ainsi que se créent deux communautés distinctes, les blés d'Europe de l'Ouest et ceux d'Europe de l'Est, regroupant les pays membres du pacte de Varsovie pendant la guerre froide. Le brassage reprend après la chute du mur, révèle les génomes. La révolution verte d'après la guerre se lie aussi dans les gènes. Il faut nourrir la population. Les tiges raccourcissent pour faciliter la moisson mécanisée et les pics carrés, très fournis en grains et savamment sélectionnés. Aujourd'hui, c'est le changement climatique qui pousse à chercher des caractères précis, Gilles Charmet.
Les hivers sont plus doux, donc la floraison est plus précoce, mais les gelées tardives n'ont pas disparu. Donc il faudrait sélectionner des blés qui soient capables d'accumuler de la matière sèche pendant l'hiver, parce que ça c'est bon pour le rendement, mais sans avoir une montaison, c'est-à-dire une épiaison trop précoce qui exposerait les épis au gel.
L'autre défi, c'est la résistance des maladies. La diminution des pesticides passe par la sélection génétique.
Quand l'histoire du monde se lit dans un grain de blé, c'est à lire également sur franceinter.fr. Enfin, une ambiance de feu hier soir au stade d'Anfield où, poussés par des supporters en transe, les joueurs de Liverpool ont réalisé l'un des plus grands exploits de l'histoire du foot, une impensable remontée. Battus 3-0 en demi-finale de la Ligue des Champions par le FC Barcelone, les Reds sont imposés chez eux 4-0, se qualifiant pour la finale après un match fou, Jérôme Val.
Et cette qualification historique de Liverpool est d'abord celle de son entraîneur Jürgen Klopp. Il a dû faire sans son attaquant vedette, l'Égyptien Mohamed Salah, blessé. Il a donc titularisé le Belge Divock Origi qui a inscrit 2 buts. Il a fait un changement à la pause en faisant rentrer le Néerlandais Jorginho Wijnaldum. Lui aussi a marqué un doublé. Au final, victoire 4-0 qui a fait chavirer les spectateurs d'Anfield. Ils ont longuement entonné à la fin de la rencontre devant les joueurs en ligne le fameux « You'll never walk alone, vous ne marcherez jamais seul ». Cet exploit rappelle bien sûr celui de 2005 en finale de la Ligue des Champions. Mené 3-0 à la pause contre Milan, les Anglais avaient recollé au score 3-3 pour s'imposer lors de la séance des tirs au but. Pour le Barça, en revanche, la chute est rude. Déjà sorti l'an passé en quart de finale contre la Roma sur un scénario similaire. Voilà les récents champions d'Espagne privés d'une fin de saison qui aurait pu être une apothéose pour le capitaine Lionel Messi.
Et ce sera la deuxième finale consécutive pour Liverpool qui jouera donc contre Tottenham ou l'Ajax Amsterdam. Les deux clubs s'affrontent ce soir. L'Ajax s'était imposé 1-0 au match aller, mais tout est possible.
Tout est possible. Agnès Soubiran, merci.